Monsieur de Margerie, bonjour, merci.
Bonjour.
Beaucoup. Vous êtes intervenu au Forum de Lyon en plein débat sur les énergies, énergie renouvelable, énergie nucléaire, énergie dégageant éventuellement du CO2, plus ou moins. Vous en débattez avec beaucoup de conviction. La première question que je voulais vous poser, c'est au propos de positionnement géopolitique. On sait qu'aux États-Unis, les recherches gaz de schiste sont très développées, que au Canada, beaucoup de pays, notamment anglo-saxons, considèrent que il n'y aura pas de pénurie dans les ressources en hydrocarbures parce que les capacités d'exploration sont très longues, sont pour du long terme. Nous savons que les plateformes d'exploration en haute mer ont des performances exceptionnelles et qui se sont développées depuis une dizaine d'années de façon exponentielle avec des investissements très lourds. Comment est-ce qu'un groupe comme Total peut se situer avec les normes européennes, avec la sensibilité de l'opinion, avec la question de la dégradation de la biosphère dans un contexte aussi concurrentiel?
C'est pas une question, c'est une thèse. Mais on va tâcher de donner quelques réponses précises. Bon, d'abord, je trouve que c'est une très bonne chose qu'il y ait un débat aujourd'hui sur ici, avec l'IBE, sur environnement et énergie, et pas simplement nucléaire. Parce que prendre les énergies une par une et les sujets un par un, c'est absolument irréaliste. Donc l'occasion qui m'était donnée, hein, je la trouve tout à fait excellente avec José Bouvet, de véritablement mettre les choses là où elles doivent être, c'est-à-dire, un, d'abord, c'est pas que la France, deux, c'est pas que le nucléaire, trois, c'est pas que l'environnement, quatre, c'est pas que l'énergie, mais c'est tout ensemble et c'est mondial. Et donc, effectivement, vous citez les exemples des États-Unis. Il y a des exemples un peu partout. Les États-Unis, je pense que c'était à cause ou à propos des gaz de schiste. Donc, très clairement, le débat doit être placé à ce niveau. En même temps, c'est toute sa complexité. C'est plus on le met à un niveau mondial, moins on trouve de solutions pratiques. Et on me reproche à ce moment-là de dire, oui, mais alors, si c'est mondial, comment fait-on? Moi, je pense que même en mondial, on peut avoir des solutions. Mais commençons déjà par des choses plus simples. Bon, le nucléaire, à nouveau, ça doit être repris avec le débat gaz à effet de serre. Et donc, le sujet est comment fait-on à la fois pour réduire les émissions et en même temps réduire, supprimer l'accès au nucléaire. La réponse, elle est claire. Aujourd'hui, le nucléaire, même s'il y a des problèmes de déchets, même s'il y a des problèmes de risque, etc., en termes d'impact sur les gaz à effet de serre, c'est clair que c'est la source d'énergie la plus propre. La plus propre en termes d'émissions de gaz à effet de serre. J'insiste parce que quand on dit un mot et qu'on le sort, on dit il a dit que le nucléaire était propre. Je n'ai pas dit que le nucléaire était propre, j'ai dit que le nucléaire ne faisait pas de gaz à effet de serre. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Alors, le problème, puisqu'on parle de la France versus les États-Unis, pourquoi, etc. D'abord, une chose simple, c'est plus facile, effectivement, de ne pas lancer quelque chose que de l'arrêter. Alors là, je vais faire un petit cadeau au Vert et à José Bouvet. C'est vrai que pour le ministre de l'énergie américaine, qui arrive et qui se trouve face à des réserves considérables de gaz, avec une production de gaz qui permet de faire baisser les prix de l'énergie à un niveau extraordinaire, qui a permis de passer du charbon américain, alors qu'Obama est le roi du charbon, au gaz, ça a un impact extraordinaire sur l'environnement. Bon, donc lui, arrivant, un, il dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux arrêter ça? La réponse est non. Alors c'est là qu'il y a plus de pragmatisme qu'ailleurs, parce que arrêter le gaz de schiste aux États-Unis, c'est impossible. Les prix du gaz flambleraient du jour au lendemain. L'économie américaine n'est pas brillantissime, c'est le moins qu'on en puisse dire. Donc aujourd'hui, ils jouent sur le prix du gaz pour maintenir l'économie à un niveau à peu près acceptable. Vous faites monter les prix du gaz en arrêtant les gaz de schiste par 4, c'est-à-dire vous les ramenez à l'équivalent prix du pétrole. Donc vous tuez l'économie américaine. Ça, ils le savent. Et ils le disent. Puis en plus, surtout, puisqu'ils sont vraiment écologistes, contrairement à ce que certains veulent dire, eh ben voilà, on a réduit le charbon à la place. Donc c'est quand même mieux que du charbon, même si ce n'est pas parfait. Et puis derrière, on va discuter des problèmes liés à l'environnement, au sens utilisation de l'eau, nappe phréatique, risque de contamination, etc. Mais on le prend à l'intérieur d'un ensemble et pas séparément. Alors effectivement, j'insiste, C'est plus facile à faire quand ça existe déjà que quand ça n'existe pas. Et en France, comme ça n'existait pas, on commence par regarder ce qui ne va pas. Alors ça, c'est aussi peut-être un petit défaut de notre pays, de mon pays, que j'assume, c'est qu'on aime bien critiquer avant de regarder tout. Puis après ça, quand on a beaucoup critiqué, on s'aperçoit qu'on a fait une connerie et qu'il faut peut-être revisiter. C'est pour ça tout à l'heure, si je puis dire, quand on a dit, quand José Bouffet a dit il faut continuer le débat, rester mobilisé, j'ai applaudi. Parce qu'effectivement, je pense qu'il faut maintenir ce débat. Ça veut dire, y compris le débat, sur ne pas arrêter. Donc je suis sûr qu'il a compris ce que je voulais dire.
Oui, mais vous l'avez dit très clairement.
Je ne sais pas pour du tout pour ça, mais c'est vrai que ce débat ne doit pas s'arrêter. C'est-à-dire, on ne peut pas systématiquement, sur tous les sujets qui fâchent, les regarder de manière purement et simplement antagoniste. On ne peut pas en faire que des sujets politiques. Et le sujet, on en parlait tout à l'heure, je me posais la question de savoir si... c'était intéressant d'avoir le débat sur le nucléaire aujourd'hui. Alors, le problème, c'est effectivement d'avoir un débat sur le nucléaire en période électorale. Ben, automatiquement, ça exacerbe les esprits et les partis ont tendance à probablement un petit peu grossir leurs arguments des deux côtés. Maintenant, d'un autre côté, si on n'a pas un débat sur le nucléaire pendant une période électorale, je ne sais pas quand on l'a non plus. Alors, est-ce qu'il ne faut pas globalement que le débat électoral soit relevé? Ça, c'est un autre sujet. Mais clairement... Oui, il y a un débat sur le nucléaire, mais surtout, je terminerai là-dessus, reprenons-le dans son ensemble, le monde manque d'énergie, donc il n'y a pas de débat entre les énergies fossiles, le nucléaire et les énergies renouvelables. Aujourd'hui, on a besoin de tous. Donc le problème, c'est comment on les amène toutes à temps et toutes avec le moins d'effets sur l'environnement. C'est ça notre débat. Ce n'est pas le débat sur le nucléaire ou le débat sur etc. C'est le débat sur la vie. L'énergie, c'est la vie. Et on ne peut pas le regarder simplement au niveau français, parce qu'on est 7 milliards d'habitants depuis peu de temps.
Je crois sur ce point que l'opinion publique, en général, ne mesure pas l'extraordinaire croissance de la dépense énergétique dans le monde depuis une vingtaine d'années. Chacun croit qu'avec ce qu'on nous dit de la crise, les consommations sont stabilisées à leur niveau d'il y a 20 ans, alors qu'en réalité, elles ont explosé et que votre groupe a une activité de recherche et de prospection qui se développe de façon extraordinaire. Est-ce que vous pourriez exposer de quelle façon il a été possible de tripler ou quadrupler la consommation énergétique hydrocarbures depuis une vingtaine d'années, comme on voit que c'est le cas?
D'abord parce qu'on en avait besoin. Et j'insiste beaucoup, et surtout dans le monde moderne, c'est pas le producteur qui fait la consommation. Cette époque est révolue. Enfin, là, je parle devant les étudiants. L'époque des producteurs qui font le marché, c'est mort. Ça a duré pendant trop longtemps. Moi, je l'ai connu. Et je me suis battu contre, en étant dans une école de commerce, il n'y a pas de secret, je me suis battu contre cette idée que c'était le produit qui faisait la consommation. Et qu'à partir du moment où le produit était bon, il fallait le vendre. Non. Il faut d'abord savoir ce que veut le consommateur, ce dont il a besoin. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de lui dire quand même, attention, il ne faut pas aller trop loin. Et puis après ça, nous, on fait de la production. Ça a changé complètement l'ordre des choses. Et ça, c'est un phénomène de société, fort heureusement, qui se reproduit maintenant partout. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on regarde la demande. Et puis, effectivement, en Europe, dans les pays OCDE, où on est déjà à un niveau extraordinaire de consommation d'énergie, on dit, il faut produire moins. Je dis toujours, je suis le seul patron d'entreprise qui dise qu'il faut produire moins. Il me paraît curieux, parce que, normalement, on attend, au contraire, ce que nous avait appris à l'école quand j'étais jeune, il faut produire plus. Voire même pousser les gens à consommer plus, même s'ils n'en ont pas besoin. Maintenant, on est vraiment dans le scénario contraire. Mais comme il y a 1,5 milliard d'habitants, c'est pour ça qu'on ne peut pas le garder en France, qui aujourd'hui n'ont pas d'énergie du tout, c'est ceux-là qui en demandent. Et même si on va faire en sorte qu'ils en consomment moins que nous, ça va faire plus de consommation. Et je veux dire, ces chiffres, ils sont... Voilà, il faut arrêter de s'envoyer à la figure des chiffres en disant « vous voulez produire plus pour gagner de l'argent ». Non, on veut produire plus... Certes, gagner de l'argent, je maintiens que ça n'est pas un péché et que j'espère que dans les universités, on continue à apprendre ça parce que sinon, je m'effondre. J'expliquais ça au... Je suis désolé, je suis des petits... Vous ferez ce que vous voulez avec, mais j'ai rencontré le prix Nobel de la paix récemment, le Bangladais, et qui fait un très beau speech à Cannes et qui dit « Ce qui est génial, c'est que les sociétés puissent nous aider. Merci Danone qui offre des yaourts gratuits ou pas chers. » etc. Mais par contre, le profit, c'est pas bien. Etc. Et bon, il s'en va, j'applaudis, etc. Et puis, il vient me voir. Parce que vous parlez de Total, il vient me voir parce que Total est connu dans beaucoup de pays, surtout chez lui, comme une société particulièrement proche des populations, des locaux, et ça fait vraiment partie, non pas simplement d'une image, mais une réalité qui est vraiment la nôtre. Et il le sait. On fait du microcrédit, c'est là-dessus qu'il s'est fait nommer ou élire le prix Nobel de la paix. Et donc, il vient me voir en me disant « Ah, je suis content de vous voir parce que je sais que vous faites du microcrédit. » Je dis « En plus, on a une amie commune en France qui est pour moi la reine du microcrédit, la fameuse Maria et Novak. » Et je dis « Moi, je trouvais très bien votre speech, mais quand même, il y a un truc qui ne va pas, le profit. Parce que je vous signale que si Danone vous donne des yaourts gratuits ou pas chers, c'est parce qu'il fait des profits. Parce que s'il ne faisait pas de profit, il ne pourrait pas vous donner des yaourts gratuits. Et je veux dire, c'est quand même du bon sens. » J'adore le bon sens. Plus je vieillis, plus j'adore le bon sens. Et le bon sens, il m'a dit, ben oui, c'est vrai. Alors je dis, comment vous faites alors avec votre profit? Le profit, il faut arrêter de l'antagoniser. Le profit, c'est s'il a été mal formé, c'est-à-dire on l'a volé, on l'a pris de manière anormale, donc il y a la corruption, il y a tout, etc., et puis la manière dont on l'utilise après. Mais faire un débat sur « je suis contre le profit », je dis « je suis désolé, vous allez dans le mur ». Parce que vous venez me voir pourquoi? Je suppose parce qu'on fait un peu de profit, que je peux vous aider à vous développer. Crac. Il l'a reconnu. Il m'a dit, vous êtes tous comme ça. Et je dis, de plus en plus, j'espère, et c'est pour ça que je suis ravi de parler avec vous aujourd'hui, parce que j'espère que les jeunes vont commencer à rentrer dans ce débat. C'est pas contre le profit. Je suis un peu loin de l'environnement, hein, je suis désolé. Mais c'est lié, parce que c'est toujours pareil. Arrêtons les antagonismes. Arrêtons de vouloir à tout prix mettre les gens en contradiction. Alors qu'on a tellement de choses à partager, puis ce qu'on n'aime pas, bon, on trouvera toujours une occasion de se la foutre sur la gueule, mais à la récré, comme on dit.
Donc pour vous, la complémentarité, si on se place dans une démarche un peu prospective de votre entreprise, c'est de développer l'activité dans des pays en développement qui ont une forte demande en énergie et d'accompagner la limitation de consommation dans les pays développés.
Bravo, je n'ai pas parlé pour rien. C'est mieux dit que ce que je n'aurais fait. En beaucoup
mais
plus court.
Qu'est-ce que ça veut dire sur la présence de Total dans les pays développés?
Ben, ça veut dire qu'on est dans 150 pays aujourd'hui. Donc il faut plutôt compter les pays dans lesquels on n'est pas. C'est plus facile, ça va plus vite. Et effectivement, on essaye, contrairement à notre image, de leur expliquer qu'on peut faire mieux qu'avant, qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'énergie fossile, ben, c'est la plus disponible, c'est la moins chère. Et donc, tant mieux s'ils peuvent comprendre ça en s'assurant qu'ils vont bénéficier à l'avance des progrès qu'on a fait en la matière, parce qu'il y a quelque chose aussi qui est très surprenant et que les gens ne savent pas. Une raffinerie en France, elle est moins efficace énergétiquement qu'une raffinerie en Afrique. Pourquoi? Parce qu'elle est plus vieille. Et en Afrique, on leur fait payer en fait des raffineries plus chères que les nôtres, et en fait, ils consomment moins en termes d'énergie par molécule. Il faut dire ça, il faut arrêter de dire les pays africains et les autres polluent. On leur fait au contraire payer des raffineries plus chères. Maintenant, attention, ne me dites pas qu'il faut changer les miennes pour en mettre des plus propres, hein, parce que ça va être un autre sujet économique. Mais ça, c'est quand même un des vrais débats. Et donc, qu'est-ce qu'il faut dire aux pays émergents? Eh bien, essayer d'éviter les erreurs que nous avons faites. Et tâcher de profiter de notre expérience maintenant, sans donner de leçons, parce qu'il y a eu le coup pendant quelques années de... les Chinois, quand même, font chier, quoi. Ils ne pourraient pas rester un petit peu dans l'ombre. Je ne veux pas parler de noir, mais dans l'ombre, parce que finalement, ils viennent consommer. Non, on ne peut pas dire ça. Donc, il faut effectivement leur dire, tâchez de prendre de l'énergie dont vous avez besoin, tâchons de découvrir ensemble des nouvelles solutions, réfléchissons à ce nouvel modèle de société, mais attention, sans oukase, parce que je maintiens que dans la notion de réduction d'énergie, et il faut aussi parler aux gens. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit forcément d'accord pour vivre une vie plus austère. Il y en a qui le sont, par conviction, hein, ce n'est pas un reproche. Il y en a qui ne le sont pas du tout. Puis alors, je prends toujours moi, l'exemple du troisième et quatrième âge, parce que pour le moment, je m'en rapproche, donc ça commence à m'intéresser. Ils ont travaillé toute leur vie pour avoir leur retraite. Ils demandent qu'une seule chose, effectivement, c'est de voyager. Et donc, vous les voyez dans les avions. Hein, dans les avions, vous n'avez qu'à voir la moyenne d'âge des populations, elle n'est pas en diminution. D'ailleurs, la preuve, c'est que je continue à voyager, donc je participe à l'augmentation. Mais c'est faible. Eh bien, ils veulent voyager. Et vous allez leur dire non, rester en France, c'est mieux. Non, vous n'allez pas leur dire ça. Vous allez leur dire, il faut réduire la consommation des avions, il faut, etc. Mais je pourrais vous donner comme ça 1000 exemples de contradictions. Et il faut arrêter les contradictions. Il faut tâcher d'aller à l'essentiel. Quels sont nos objectifs ? Réduire les gaz à effet de serre, parce qu'effectivement, on a un vrai problème de changement climatique. Et c'est prioritaire. Et ensuite, comment cela va avec la vie ? La vie, c'est-à-dire celle que vous êtes en train de préparer, celle des étudiants, parce que c'est vous qui êtes responsable.
Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre le niveau national et le niveau global que vous venez d'évoquer ? Je veux dire, vous êtes dans la situation, avec quelques autres grands responsables industriels, de faire le tour de la planète et d'avoir des relations avec les personnes influentes dans chacun des espaces économiques et politiques de la planète. En contrepartie, les élus, les responsables politiques ont des mandats nationaux, ont une opinion publique pas toujours bien informée, pas toujours attentive, et sont comptables devant des demandes locales, celles que vous venez d'évoquer, les retraités qui veulent voyager. Est-ce qu'il n'y a pas un découplage entre cette politique globale dont vous êtes un représentant non élu et des politiques nationales dont les représentants élus peinent à intégrer les thématiques. Je dirais, c'est parfois également au plan des institutions européennes où on voit un découplage entre les discours et les responsabilités des grands commissaires que le public ne connaît pas, mais qui préparent aujourd'hui le sauvetage de l'euro un peu dans l'ombre.
Mais c'est vraiment un sujet de fond. Là. Mais alors, on n'est plus dans le pragmatisme, on est vraiment dans le vrai choix de société. Et comment arriver à comprendre que la mondialisation, ce n'est pas opposé à comment ça s'appelle
l'altermondialisme.
Voilà, merci, je fais exprès. Hein. L'altermondialisme, qu'est-ce que c'est que ça, l'altermondialisme ? Je ne sais pas. La mondialisation, le monde, il est mondial, comme dirait Coluche. Donc qu'est-ce que je veux que je fasse, moi ? On ne va pas le rendre alter ou néga. Je ne devrais pas faire ça. Mais sérieusement, je veux dire, on est forcément dans un monde mondial. Alors, ça a beaucoup d'avantages et beaucoup d'inconvénients. Les avantages extraordinaires, c'est que maintenant, on se parle, on s'échange, que grâce à Internet, qui n'a pas que des mauvais côtés, les gens découvrent des choses et donc ça facilite la démocratie et la liberté à défaut de démocratie. Donc tout ça, c'est un plus. Et puis derrière, l'inconvénient, c'est que comment est-ce qu'on gère 7 milliards d'habitants alors qu'on n'arrive déjà pas à en gérer 65 ? Et là, c'est pour moi le débat, et ça, c'est le débat que je repousse toujours avec, j'aime pas dire les jeunes, mais les plus jeunes que moi, donc, et en disant, moi, j'aimerais bien que vous m'expliquiez comment vous voulez faire. Parce qu'on parle de débat de société, et qui est-ce qui en débat aujourd'hui ? C'est José Bové et Christophe de Margerie. Bon, je sais pas quel âge a José Bové, bon, mais moi, en tout cas, je peux vous dire, 60 ans depuis le mois d'août. Donc c'est quand même plus dans la période d'euphorie, bon, en termes de durée de vie en tout cas, l'euphorie toujours. Eh bien, moi j'aimerais bien savoir que vous m'expliquiez justement comment vous voulez faire. Parce que c'est vrai que ce débat sur la mondialisation, et quand je reviens de l'étranger, je reviens en France, je suis stupéfait de la différence de point de vue et ce qu'on raconte, qui est complètement faux, parce que nous, les Français, même entre nous déjà, on fait parler les autres, même en direct. Mais alors là, on fait parler les Chinois, les Indiens et les Africains. Ils ne se reconnaissent pas. Et il faut aller les voir pour écouter. Pourquoi pour écouter ? Pas forcément qu'ils aient raison. Mais notre point de vue, c'est 65 millions d'habitants par rapport à 7 milliards. C'est-à-dire, pendant combien de temps on va penser en France que notre point de vue va l'emporter sur tout le monde ? Et que le pseudo-idée de la différence française... Je change exprès le terme parce qu'il ne me plaît pas à l'autre. C'est une erreur. Qu'on ait une culture basée sur le bon vin, etc., ça c'est bien. Qu'on ait une culture sur notre histoire, etc., c'est bien. Mais que derrière, on considère qu'il ne faut pas regarder ce qui se passe et que le problème, il est effectivement, on n'a qu'à régler ça au niveau français ou au niveau européen, c'est impossible. Ou alors on va souffrir.
Comment est-ce que votre entreprise, la démarche que vous nous décrivez, d'écoute auprès des pays émergents, auprès de la jeunesse ? Comment est-ce que votre entreprise la met en place ?
Quand je vais dans la plupart des pays, vous serez surpris, parce qu'ici, je me suis fait reprocher de ne pas être venu l'année dernière vous voir. Donc voilà, dont acte, on corrige. Mais dans les pays autres, je n'aime pas dire étrangers, Déjà, pays étranger, c'est quoi ça? Je suis désolé, je fais de plus en plus attention aux mots, parce que je trouve qu'avec les mots, on fait beaucoup d'erreurs. Je me suis fait reprendre tout à l'heure, je ne sais pas, j'ai dit, je pense que négawatt, je sais bien ce que ça veut dire, mais je pense que le terme néga est négatif. Et donc on peut le transformer en la même chose. Il suffit de dire simplement, on veut réduire les watts, on a compris. Mais attention à tout ça. Les pays étrangers, on parle d'un gouvernement qu'on n'aime pas, on dit au hasard, allez, on dit des Iraniens. Non, le gouvernement iranien, pas les Iraniens. Ils sont 70 millions et ils sont beaucoup plus sensibles que nous encore, encore plus d'égo. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, je vais les voir. Ou encore mieux, dans certains pays, on fait un truc qu'on n'aurait jamais pu faire en France, c'est-à-dire on participe même à quelque chose d'important, c'est développer l'éducation. Dans beaucoup de pays, on a fait quelque chose qui a beaucoup surpris nos gouvernants et l'éducation nationale française, c'est qu'on a pris, oh scandale, on a pris la responsabilité de développer des lycées. Pétroliers, développe des lycées. Ben oui, en l'occurrence, c'est en Angola, mais on a fait ça dans beaucoup d'autres pays maintenant, c'est de dire, il y a eu avec la guerre un trou considérable dans l'éducation des jeunes. Nous, on a formé, ça on savait le faire, les jeunes qui sont déjà, j'allais dire, bac plus, et là, on leur fait faire la partie supérieure et éventuellement avec une formation complémentaire énergétique, énergie, et puis, maintenant, il y a un trou. Donc c'est bien de former ceux qui sont déjà formés, mais il faut les reformer. Donc on a décidé de se lancer dans l'éducation et donc de subventionner, d'investir dans des lycées. Ça ne veut pas dire qu'ensuite on s'occupe du tout de la partie éducation, mais de dire c'est notre responsabilité. Eh bien, ça passe très bien. J'étais très surpris, parce que quand j'ai vu le ministre de l'éducation en Angola, je lui ai demandé, est-ce que vous êtes d'accord pour ça? J'étais sûr qu'il allait me dire non, ça ne vous regarde pas, il faut séparer, comment? Non, là-bas, ils acceptent. Et nous, attention en France, et c'est pas, je ne suis pas critique français, je suis simplement positif, surtout vis-à-vis de vous, parce que c'est vous qui allez le faire. Non, je pense que l'entreprise a le droit de parler, parce que là aujourd'hui, quand l'entreprise parle, on dit que c'est un lobby. Moi, je pense que l'entreprise fait partie de la démocratie, et qu'au contraire, il faut la forcer, parce que les chefs d'entreprise n'aiment pas. Alors j'adore quand il y en a un qui s'exprime, on lui dit lobby, mais les autres, les 99% autres, ne parlent pas. Et ils ont tort, parce qu'ils ont une responsabilité, parce que c'est eux qui embauchent. Et donc il faut les ramasser, je veux dire, enfin je dis ça gentiment, mais il faut que vous les poussiez à venir. Vous leur disiez, on veut que vous parliez, vous n'avez pas le droit de vous abstenir. Bon, mais alors maintenant, après ça, c'est quelques risques. Voilà, j'ai plein d'idées encore comme ça. Mais
on en regarde pour l'année prochaine.
On en regarde pour l'année prochaine.
Merci beaucoup.
Mais en tout cas, j'ai qu'un seul message final. Moi, vraiment, et c'est pas du tout de la... Je compte beaucoup sur vous. Voilà. Je trouve que, et je l'ai déjà dit, attention, je vais me faire critiquer, mais tant pis, je vous reproche d'être un tout petit peu trop silencieux. En général.
Alors je vous pose une dernière question pour la route, très rapidement. On a évoqué justement l'écoute de Total finalement, et on n'a pas soulevé du coup un problème que vous mentionniez en début d'entretien, c'est la multiplicité des sources d'énergie qu'il faut concilier. Or le fonds de commerce de Total, si j'ose dire, c'est quand même les hydrocarbures. Mmh. Alors comment est-ce qu'on fait avec les autres quand on est une entreprise qui se focalise sur une énergie?
Alors d'abord, le gaz et le pétrole, ce n'est pas la même chose. Ensuite, il y a 1000 pétroles et 1000 gaz, donc ce n'est pas aussi simple que ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? On ne se focalise pas du tout, on se focalise sur ce qui existe. Et on n'a pas voulu, j'ai pas voulu sortir trop de chiffres tout à l'heure. Aujourd'hui, en 2011, la part des énergies fossiles dans le mix énergétique mondial, vous savez combien c'est? 81%. 80%, c'est charbon plus gaz plus pétrole. En 2030, et là, tout le monde est d'accord parce que 2030, c'est déjà quasiment fait. Hein. C'est pour ça que les gens aiment bien parler de 2050, parce que 2030, c'est fait. On va passer de 81 à 76. Alors, je me trompe peut-être d'un pour cent ou de deux, mais pas plus. Mais en même temps, 1 et 2%, ce sont des milliards. Hein. Donc aujourd'hui, en 2030, c'est-à-dire dans 20 ans, 19 ans, très exactement, eh bien, on va passer de 81 à 76%. Et encore, on n'a pas pris là-dedans le problème du nucléaire. Parce que s'il y a moins de nucléaire, je pense qu'en attendant que les énergies renouvelables augmentent, on va encore demander aux énergies fossiles de venir. Puis de toute façon, si on ne demande pas de venir, on va se faire engueuler. Donc, à nouveau, oui, notre métier, c'est d'abord les énergies fossiles, sauf le charbon. On a déjà suffisamment de problèmes avec ça. Donc, gaz et pétrole, oui, c'est de le rendre plus propre. Oui, c'est de permettre aujourd'hui d'en consommer moins, donc de participer à l'effort énergétique. Puis ensuite, de participer au débat sur, in fine, c'est vrai qu'on a un problème de réchauffement, un problème de degré, mais comment le fait-on indépendamment de mots? Et donc, après ça, quand on nous dit on va mettre des renouvelables, les renouvelables aujourd'hui, c'est 1 à 2% de l'énergie mix mondiale. Voilà. Et même en Allemagne, qu'on met toujours en avant, eh bien, en Allemagne aujourd'hui, les renouvelables, en ajoutant la biomasse, c'est 20% d'électricité, mais c'est à peine 10% de leur énergie mix. Et là-dedans, on met la biomasse, c'est-à-dire l'éthanol. L'éthanol, on pourrait discuter de savoir si l'éthanol, c'est sans CO2. Bon, bref, qu'on arrête de s'envoyer des chiffres, qu'on arrête de dire qui a tort ou a raison. Je crois que le Sénégalais il a eu une très belle phrase aujourd'hui sur dire la vérité, c'est bien, mais prédire, c'est mentir. Si j'avais eu le temps de discuter de ça, parce que je trouve que c'est un beau sujet, le problème, c'est pas dire, c'est mentir, et surtout pas que prédire, c'est une erreur. C'est beaucoup plus de dire attention à la notion de temps. Nous ne sommes pas tous au même moment de temps. C'est-à-dire aujourd'hui, l'Europe est à un niveau X, l'Afrique est à un niveau Y. Et de dire ça, ce n'est pas du racisme. C'est simplement reconnaître que certains pays ont besoin de plus de temps que nous, ou moins. Et je terminais sur un seul chiffre. Aujourd'hui, la France, c'est 600 voitures pour 1000 habitants. Les États-Unis, c'est 750, 800 voitures pour 1000 habitants. La Chine, c'est 40 pour 1000 habitants. Bonne réflexion sur nos problèmes énergétiques.
Merci beaucoup.